Radio Silence, bonjour. Nous sommes le 28 novembre. Vous écoutez Flash sur le monde pour Radio Silence par Élise Mbok. Donc, comme la radio le dit, nous avons observé un silence, hein, puisque cela s'imposait et parce que les événements donnaient le tournis. Et que nous avons assisté là à quelque chose de formidable parce qu'il y a eu un déchaînement des passions et surtout les langues se sont ouvertes, voilà, se sont déliées, pardon, je pensais aux bouches, se sont déliées et tout ce que les gens connaissaient, savaient qui était tu, vous savez, il y avait une censure qui s'exerce et qui s'exerçait lourdement. Et donc, les gens avaient intégré une forme d'autocensure qu'on appelait le politiquement correct. Donc, il ne fallait pas faire de vagues. Hein, donc, mais là, pour cette fois-ci, aux surprises miracles, les langues se sont déliées et on a assisté vraiment à un déferlement comme ça, massif de ou d'aveux ou de révélations qui bon les unes les plus troublantes que les autres. Alors bon, vous savez, c'est le code, on va continuer à le respecter parce que même les gouvernants se sont déchaînés sur toute parole qui n'était pas conventionnelle, c'est-à-dire conforme à la leur, à leur idéologie, et dont vous risquiez très gros. D'ailleurs, on a vu toutes les menaces qui ont été proférées, on a vu, comment dirais-je, toutes les transgressions, je vais dire, au niveau de la... De ce qu'on peut appeler le respect de l'humanité, de la vie et de ce qu'un leader, leadership peut produire. Nous avons vu l'impensé se dérouler comme ça devant nous, des choses qu'on ne pouvait même plus imaginer aujourd'hui que ça pourrait se réaliser. Non, mais c'était incroyable. Mais disons que ce qui est bien dans tout cela, c'est qu'on a vu quand même, parce que vous savez, nous sommes une génération qui n'a pas assisté à la traite des Noirs ou à tous les, je sais pas, à toutes les occupations précédentes, qu'on ne peut pas dire les occupations, les exterminations carrément des peuples, comme le remplacement, voilà, le grand remplacement, comme cela s'est fait en Australie avec les aborigènes, comme cela s'est fait en Amérique, vous savez très bien, avec les je sais pas, on ne va pas les appeler les indigènes, mais vous voyez les Indiens, comme cela s'est peut-être fait ailleurs ou à essayer d'être implémenté, mais ce qui n'a pas réussi et qui s'est transformé finalement en ce qu'on a appelé la colonisation. On n'a pas assisté à toutes ces horreurs et donc on était loin d'imaginer qu'en fait ça s'est passé comme ça. Donc ce que l'État d'Israël fait en ce moment avec les Palestiniens, c'est ce qui s'est fait partout ailleurs où on venait, soit pour mettre sous tutelle, soit pour coloniser, soit pour esclavagiser. Je crois que c'est ça. Donc on a un retour, un miroir, un grand miroir qui nous est... Alors, je ne parle même pas d'Hitler, un grand miroir comme ça qui nous montre l'histoire de l'humanité, un peu dans une sorte de rétroviseur, vous voyez en flashback, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, et c'est ce qu'on voit. Et effectivement, lorsqu'il faisait toutes ces choses-là, dans l'Amérique du Sud, par exemple, lorsque les Espagnols y étaient, c'est l'histoire qui nous dit ça, mais on n'a pas vu, on n'a pas entendu, mais alors le voir Et surtout, à cette époque-là, bon, c'est vrai qu'il y avait des armes de destruction massive qui étaient plutôt, je veux dire, c'est le fusil, c'est l'épée. Mais aujourd'hui, on a carrément les bombes qui tombent. Et là, c'est la mort, c'est l'enfer en fait, c'est l'enfer de Dante, carrément, parce que on n'a pas de mots pour décrire cela. Et donc, soit vous partez dans l'émotion et puis vous réagissez vraiment dans la folie, et puis on vous dit non, non, mais doucement, modérez vos propos, il faut savoir que, il faut savoir ci, il faut savoir ça, soit. Vous vous taisez, mais seulement moi je sais que j'ai passé des nuits blanches hein, au début à suivre la réponse d'Israël, mais c'était terrible. Alors, on va laisser tout ce qui est histoire, religion, religieuse. On va rester dans le droit, parce que je crois que là, au moins, on va pas crier, on va pas trop crier. Et j'ai retenu une phrase d'un auteur que je connaissais pas, qui s'appelle Eduardo. Galeano, bon, je ne sais pas prononcer, je ne sais pas parler espagnol, et qui dit que nous vivons dans, we live in a packaging culture that despises content. Alors, nous vivons dans une culture emballée, voyez, je sais pas comment dire, packaging culture, qui ne tient pas compte du contenu. Ça veut dire que nous sommes dans une forme d'hypocrisie, nous sommes dans un monde superficiel, dans la superficialité, et effectivement, nous avons intégré la censure. Et le packaging de la culturelle qu'on nous proposait, c'était un, attention à ce que vous dites, hein, parce que vous savez, la loi dit tout ce que vous dites pourrait être retenu contre vous. On reprend cela. Et deux, on vous dit politiquement, c'est pas correct. Trois, on vous dit c'est un discours de haine. Et quatre, on vous dit, quand ce sont les habitants d'Israël, on vous dit c'est de l'antisémitisme. Bon, moi, chaque fois que je lis un texte, que je lisais et que je continuais à lire, ça baissait quand même cette histoire-là, un texte qui parle d'antisémitisme. Enfin, un texte qui commence à mettre en parallèle la critique, toute critique d'Israël. Là, vraiment, je rejoins le Premier ministre Dominique de Villepin, qui a été formidable, qui a été français, enfin, quand même, et qui dit on ne peut plus accepter cette règle, le packaging culture, qui voulait que toute critique contre Israël était assimilée à de l'antisémitisme. Donc, pas de con, c'est ça qui méprise le contenu. Non, on peut penser, parce que justement, à force donc de censurer toute critique contre Israël, on a fini par censurer tout ce qui pouvait être rapporté à l'histoire, on a fini, parce qu'on parlait aussi du négationnisme dans le packaging culture. Bon, il y a des choses qu'il fallait pas dire, faut se taire, donc plus de débat, plus de liberté de penser. Et ça, c'est un problème rampant ou dormant. Et on écoutait comme ça, enfin, on écoutait, on vivait comme ça, avec ça, avec le refoulé. Mais vous savez, c'est Lacan, c'est les psychanalystes qui ont dit chassez le refoulé, il reviendra en puissance 10. Et il est revenu, ce refoulé. Il est revenu d'abord dans le courage des gens qui sont allés défiler partout dans le monde et qui ont bravé leurs gouvernants, malgré la censure, malgré les menaces, malgré la présence policière, je ne veux pas dire massive, mais pour le coup, c'est un peu ça. Et les langues se sont déliées. On a eu dans les universités, notamment Harvard, qui est quand même quelque chose de très symbolique, où les étudiants majoritairement étaient quand même, c'est la jeune génération, pour défendre la Palestine. Et bon, les enseignants s'étaient partagés. Et même ce débat-là n'était pas permis, mais ils l'ont eu quand même là-bas, moyennant quoi, il y a des étudiants à qui les chefs d'entreprise ont promis que bah, on se souviendrait d'eux, ils ne seront pas embauchés, etc., etc. Parce que là, c'est là où on prépare ceux qui vont, les héritiers, quoi, dans l'appellation de Pierre Bourdieu. Donc, bon, On va pas dire les morts, les bilans, ce qui se passe, c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer parce que y a plein de mots, il y a pas de mots. On peut insulter, on peut, on laisse tomber ce côté-là parce que, comme on dit, les images parlent d'elles-mêmes, on va pas rajouter. Mais on va juste revenir sur les conclusions de, enfin, l'avenir. L'avenir, c'est qu'on nous dit. On a commencé par dire qu'il y aurait, comment ils appellent ça, trousse en anglais, on va pas, on va arrêter le combat un moment, et puis ça a repris, liberté, on va libérer les otages, et puis on va arrêter un moment, on va reprendre peut-être oui, mais Israël, c'est le maître de l'usure. Vous savez, la guerre de l'usure, et c'est ça qui va se passer entre Israël et Gaza. La guerre de l'usure, une guerre d'usure, ça va aller avec la propagande et la communication. Ce qui se passe déjà, c'est que dans les faits, Israël a perdu la guerre, la bataille de la communication et même la bataille du droit. Elle a perdu la bataille de la communication parce que tout le monde a pris fait et cause, enfin tout le monde, la majorité du peuple a pris fait et cause pour la Palestine, y compris même au sein de la communauté en Israël qui se dispute de qui est juif et qui ne l'est pas. C'est-à-dire que là-bas aujourd'hui, le peuple est à la rue, il demande la démission du Premier ministre parce que ça va loin cette histoire-là. Et quelque part, ils sentent bien qu'à un moment donné, quand ça reviendra, ça ne sera pas seulement le leadership qui sera impacté, ça sera aussi eux. Et il faut bien qu'ils se bougent aussi à leur façon. Et c'est vrai qu'au Parlement aussi, en Israël, on a vu un député, une ou deux personnes comme ça qui sont pas d'accord du tout avec la tournure des événements. Donc, il y aura, on va faire arrêter on arrête 3 jours, on n'arrête pas, mais en attendant, Israël, les chars sont entrés à Gaza, enfin à Gaza. Oui, à Gaza, j'arrive même plus à dire entre Gaza et le Hamas, parce qu'on cherche le Hamas. En cherchant le Hamas, on le cherche aveuglément, on tire partout. Alors, c'est toujours le même processus, hein. Israël annonce une chose et fait une autre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Presque rien. Sur le plan du droit, puisqu'on a dit qu'on restait sur le plan du droit pour l'avenir, parce que cette guerre va durer. On va déjà retenir l'initiative d'un grand avocat français qui dit qu'il a avec lui 300 avocats au moins dans le monde entier et qui ont porté plainte à la Haye contre l'État d'Israël pour génocide, tout ce que vous pouvez imaginer, infraction à la loi. Et ce qui ressort de très intéressant, c'est que... Ils ont annulé, vous savez, à chaque fois qu'il y avait quelque chose, qu'il y a quelque chose qui se passe entre le Hamas et Israël, on dit tout de suite que Israël a le droit de se défendre. Alors la notion de self-defense d'Israël vis-à-vis de Gaza ne tient pas parce que on a le droit de se défendre lorsque c'est un autre État qui vous attaque, mais pas lorsque vous avez entre vous, parce que là c'est un territoire qu'ils se partagent, donc là c'est un peu comme une guerre civile en fait. Donc l'idée que Israël a le droit de se défendre, ça tient pas. Donc, sur le plan juridique, ça va être jugé à la Haye et peut-être que Israël va, je veux dire, passer ou va, comment on dit d'habitude, ils négligent tout cela parce qu'ils savent qu'ils sont impunis. Mais il y a comment on va dire, une autre plainte qui va arriver, qui est plus puissante que, pas plus puissante, qui est dans un autre registre que ce que les Français ont initié, c'est celle qui concerne qui vient des amis de la Constitution, de Friends of the Original Constitution des États-Unis. Donc, qui disent donc qu'ils vont organiser une convention ou un congrès, je ne sais pas comment on appelle, mais ils ont dit convention, pour poursuivre tout l'ensemble du leadership du gouvernement fédéral qui, dans le but de reprendre ce qui a été volé au peuple américain. Pour ajouter à cela, ou bien ils mettent in addition, je ne suis pas interprète, hein, donc en direct comme ça, in addition de cette revendication de prendre ce qui leur avait été volé, il y a cette accusation, et c'est qu'il y a la corruption, c'est qu'il y a la trahison, c'est qu'il y a les meurtres, c'est qu'il y a la fraude, c'est qu'il y a la collusion, c'est qu'il y a la conspiration, je sais pas comment dire ça, pédophilie, pour sex trafficking, pour slavery, pour avoir kidnappé le peuple américain, et puis aussi ils les poursuivent parce qu'ils ont conspiré avec l'organisme que le docteur Fauci, je sais pas comment on prononce non plus, mais vous voyez un peu, CDC était directeur, et le Big Pharma pour extorsion, exploitation de la maladie, et puis non, exploitation du peuple américain, et le disease racketeering scheme, c'est-à-dire tout ce qui a été fait autour de la maladie, du Covid, et tout ce qui a été inventé comme schéma pour racketter le peuple américain. Et en cela, ils ajoutent qu'ils ont donc distorté, changé, ou plutôt, je vois pas comment dire ça, vous voyez un peu distorted, our health, donc la santé, ils ont perverti, on va dire ça, la santé, la liberté, et c'est qu'il y a le freedom and liberty, and have stolen our constitutional gov. Donc ils ont volé aussi le gouvernement dans sa forme constitutionnelle. Donc aujourd'hui, ils exposent ce gouvernement comme étant un gouvernement frauduleux qui a conspiré avec une foreign corporation that is masqueraded as our government. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de d'entente entre ce gouvernement fédéral et puis une corporation étrangère. Et cette entente fait qu'il crée autre chose qui se veut, une mascarade du gouvernement dans sa forme constitutionnelle. Donc le top leadership, ce sont eux qui poursuivent les amis de la Constitution dans sa forme originale. Le top leadership du gouvernement fédéral, ce sont des criminels, ce sont eux qui le disent. Hein. Donc, ils ont collusé, vous savez, les monopolistes, ceux qui monopolisent tout, le pouvoir, l'argent, la finance, etc., et les procédures dans leur génocide, dans le plan génocidaire, et pour donc overthrow, renverser nos libertés, ou plutôt les détruire, et détruire aussi la liberté de tous les peuples, pas les peuples, mais les lands and countries, de tous les territoires et de tous les pays. Donc il ne s'agit pas seulement de la liberté des Américains, mais il s'agit de la liberté de tous les territoires et de toutes les nations du monde. Donc ça concerne Gaza. Vous voyez, là, ils ont utilisé les bons mots, hein, mais ces mots-là, à eux seuls, disent ce qui est ressorti de tout ce débat-là, quand on dit les passions, n'est-ce pas, se sont déchaînées. Tout ce qui en est sorti, c'est vraiment concentrés ici dans cette plainte qu'ils vont déposer, ou dans cette, je ne sais pas comment dire, qui vont déposer pour mettre directement en cause le gouvernement fédéral. Et d'ailleurs, ils ont fixé, je crois pas, une somme dans les 500 billions pour au moins pour dommages et intérêts au peuple américain. Et quand on dit que le leadership, ce sont des criminels, ce sont des mots qui sont forts, quand on cite tout ce pourquoi on va les suivre, corruption, esclavage, trahison, pédophilie, sex trafficking, slavery, kidnapping. Bon, tout ça ressort de ce qui a été dit et qui se pratique à Gaza. Et on a été désolé de voir que l'Amérique était impliquée jusqu'au cou. L'Amérique était impliquée jusqu'au cou. Et ce qui fait qu'il y a manifestement un détournement des valeurs de l'esprit de la Constitution. Bon, l'esprit des lois, ça, ce sont ces choses qui nous intéressent maintenant pour la suite. Et il y a un vrai procès qui est mené contre le leadership américain et le président Joe Biden est en train de voir ses sondages s'écrouler, la cote de popularité. On n'en veut plus. De toute façon, cette guerre va lui coûter. S'il avait encore une chance de revenir, va lui coûter la présidence. Ça, c'est clair. Bon, après, on vous dit, ben, Monsieur Trump n'est pas mieux. C'est-à-dire que on verra, on verra. Mais comme on dit, entre deux mots, il faut quand même choisir le moindre. Encore que Monsieur Trump n'est pas vraiment, n'était pas quelque chose. C'était même une bonne chose pour l'Amérique, parce que justement, il venait contrecarrer cet agenda génocidaire que l'on voit, que l'on a vu avec le Covid déjà, et qu'on voit aujourd'hui s'appliquer ailleurs, dans un petit coin du globe. Donc, Monsieur Dominique de Villepin est catégorique là-dessus. Catégorique. Il n'y aura pas de disparition de la Palestine. Parce que ça serait tout simplement pas acceptable. Les pays arabes, bon, on va pas trop en parler parce qu'apparemment il y aurait des tractations et des négociations avec Israël, mais ça c'est une autre histoire. Donc, Monsieur Dominique de Villepin, il nous fait plaisir parce que vraiment, c'est le français, c'est la France qu'on aime en fait. C'est la France qu'on aime, la France rebelle, la France éclairée. La France généreuse, la France humaniste. C'est-à-dire que on ne comprend pas pourquoi en France, il a expliqué, il a dit qu'à force de traquer toutes les formes de pensée, on finit par être un petit pays. C'est-à-dire que lorsqu'on a imposé dans le packaging de la culture dont on a parlé au début, on a imposé la pensée unique. Et alors, si vous ne pensez pas comme ça, eh ben, ça veut dire, de toute façon, Bayrou l'avait dit, si nous pensons tous la même chose, c'est que nous ne pensons plus rien. Donc on devient un petit pays et la France est devenue ce petit pays rabougri qui n'a plus aucune présence. Or, la France était son attrait, son universalité, ses lumières qu'elle a complètement perdues parce qu'elle est rentrée dans une forme de marchandage avec les forces de monopolistiques, comme il dit, vous voyez, les trusts, les lois antitrust, on n'a jamais appliqué. Ça continue à tourner à la folie et vraiment, ça fait du bien d'entendre cela parce que ça a quand même obligé l'Amérique et certains pays à reculer un tout petit peu et se dire que non, 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 ça va très loin cette histoire. Enfin, ou plutôt, ils ont eu honte par rapport à ces propos-là parce que eux aussi, certains sont diplomates et ils ont entamé la marche arrière. Bon, on verra bien. Peu importe, mais moi, je crois ces deux voies-là. Les voies de la justice, à la fois celle française et celle des amis de la Constitution telle qu'elle a été écrite en Amérique. Donc, pour terminer, on va faire encore, je fais quand même comme c'est une autre, je prends un autre exemple pour voir, pour comprendre comment le monde fonctionne et plutôt comment la France a raté ça colle à sa France-Afrique, on va dire comme ça, et ça a des impacts, ça a un impact, ou plutôt c'est un reflet de ce système qu'on a vu, qui avait donc cet emballage culturel, parce que quelqu'un a comparé le devenir des colonies anciennement britanniques et celles qui sont françaises. Alors, il a pris l'exemple de l'Inde, de Singapour et de l'Amérique d'ailleurs, qui était aussi une colonie britannique, du Canada, de l'Australie. Et il a dit, mais ces pays-là, on peut aussi ajouter le Nigeria ici, hein, en Afrique, l'un des leaders du continent africain, que dans les Britanniques, ils sont partis. Et ils ont laissé se développer une culture de l'innovation, de l'entrepreneur, de l'entrepreneuriat, c'est quoi? L'entrepreneuriat et de l'éducation commerciale et de tout ça avec abouti forcément à la stabilité politique, dont innovation, entrepreneuriat, éducation commerciale, j'allais même dire financière et stabilité politique qui fait que tous ces quatre, enfin, ces cinq points sont des points, ou plutôt c'est l'innovation, l'entrepreneuriat, l'éducation commerciale qui crée la stabilité politique qui à son tour est favorable à la venue des investisseurs qui font donc progresser les choses. Tout ça, pourquoi? Parce que, à contrario, donc, à contrario, on voit que la France, qui avait donc cette manière centralisée, vous voyez, on pense tout à partir de la France, exemple le franc CFA, et alors que les autres colonies ont leur monnaie, qui avait donc cette façon de penser centralisée, qui l'a toujours d'ailleurs, et assimilatrice, soi-disant, et la civilisation, hein, et qui, en faisant cela, laisse peu de place au génie culturel de ces peuples et donc très peu de place à l'innovation. En conséquence, on a la corruption, la dépendance aux ressources, la pauvreté persistante et une instabilité politique qui s'y greffe et qui fait que ces pays-là restent dans la dépendance. Et les pays, la francophonie, bien sûr, restent dans la dépendance et n'avancent pas. Alors, vous voyez, on a donc cette histoire, ce système verrouillé, le packaging de la culture, cette histoire verrouillée se fait aux dépens de tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas, il n'y a rien, il n'y a rien de positif. Et donc, il n'y a vraiment pas de culture à proprement parler. Parce que quand on parle de ce packaging culture d'Eduardo, il met le fait que les funérailles, par exemple, sont plus importantes que la personne décédée. Le mariage est plus important que l'amour qu'on y met. Et tout ce qui est superficiel, hein, ou plutôt le physique, est plus important que l'intellect. Voilà ce qu'on avait. Le physique plus important que l'intellect. Moyennant quoi, vous avez un exemple aujourd'hui, plein d'exemples, les stars, le football, tout ce que vous voulez, partout, le physique est en jeu. C'est plus important que l'intellect. Et c'est le début, la dégringolade de la civilisation. Et ça eu une répercussion immédiate dans les élections présidentielles au Libéria. Au Libéria, le président George Weah a perdu les élections. C'était écrit. Lui, c'est quelqu'un qui a quand même fait, il a fait pareil, un parcours, il a essayé de se rattraper après sa carrière brillante de football. Mais il ne pouvait pas gérer le Nigeria, le Libéria. C'était tout simplement mission impossible. Et effectivement, il a échoué parce que les problèmes économiques et sociaux sont là et ont eu raison de lui. Et c'était l'époque où le physique a plus d'importance que l'intellect, ou plutôt on transfère les propriétés physiques sur l'intellect. Et on dit oui, ben, s'il peut jouer au foot comme ça, c'est que vraiment c'est quelqu'un, c'est un génie, donc il peut être président de la République. Et ben, le packaging culturel, c'est-à-dire que oui, on confond, j'allais dire la forme et le contenu, mais ça c'est un autre débat. Donc voilà, c'est ce qu'on va dire pour le moment. On est dans une guerre d'usure au Gaza. On prie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les Gazaouis. Et On est quand même sûr maintenant d'une chose, avec ces deux procès qui vont suivre leur cours, on est sûr et certain maintenant que la majorité des parlementaires, c'est pas en France, hein, mais aux États-Unis, la majorité des parlementaires en France, aux États-Unis, qui ont été pris la main dans le sac, en train de pactiser avec une corporation, comme ils ont dit là, de l'étranger. Donc les représentants sont en Amérique, vraiment. Ben, la majorité partira. Si les citoyens ont atteint un niveau de conscience civique qui leur permettent de comprendre quand même qu'après la rue, le défilé dans la rue, c'est très beau, mais il faut sanctionner ce genre de personnel politique, parce que si on avait de vraies politiques ailleurs, ben Israël ferait pas ce qu'il fait. Donc c'est pas tout la faute d'Israël. Quelque part, même on a l'impression qu'Israël accomplit un plan, c'est pour ça qu'ils l'ont mis ici, là, dans le genocidal plan. Et quelque part, pour renverser la liberté ou plutôt la souveraineté, on va pas dire la souveraineté, renverser les libertés dans les nations, des nations. Quelque part, on a l'impression que ce plan, ce One World World, monde unique là, utilise Israël comme un pilote. Alors, et Gaza comme le peuple sacrifié pour une expérience de ce qui peut advenir demain. Donc, si on n'arrête pas ce qui se passe là-bas, et la façon de l'arrêter, c'est déjà que l'année prochaine, on a les élections aux États-Unis, puis les élections en France, c'est déjà d'arrêter l'hémorragie à ce niveau-là, au moins. C'est-à-dire changer le leadership, qui est complètement, comme on dit, bon, je ne vais pas reprendre le mot parce que les gens vont se fâcher, mais vous avez compris. Amis de Radio Silence, vous avez écouté Flash sur le monde par radio, par Élise Mbok. Je vous dis à bientôt.